des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Il ne mord pas à l'hameçon des fausses nouvelles. Mario Dumont a de vraies bonnes sources.
Alors, c'est un anniversaire aujourd'hui important, 20 ans, l'invasion par les États-Unis, par l'armée américaine de l'Irak, qui avait été ordonnée par George W. Bush. Et ben voilà, donc c'était, disons, parlons d'un événement qui a politiquement, et du point de vue militaire, et historiquement mal tourné, parce qu'on a compris que les motifs invoqués par le président américain à l'époque, ça a pas tenu longtemps à la route. Là. Dans les mois qui ont suivi, on a trouvé Saddam Hussein dans un trou de sable. Là. Il avait pas trop l'air d'un dangereux dictateur avec des armes de destruction massive qui menaçaient l'humanité. Julien Toureil, chercheur à l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Dandu. Durant est avec nous. Professeur Toureil, bonjour.
Bonjour.
Reportons-nous exactement il y a 20 ans. Rappelez-nous, parce que là, on sait tout ce qui est venu après, mais rappelez-nous, si on se reporte il y a 20 ans, les motifs là, que nommait George W. Bush pour justifier cette invasion.
Alors, les motivations étaient assez diverses. On peut en identifier trois principales. La première, vous l'avez évoquée, c'était la menace que représentait ou qu'on estimait que représentait Saddam Hussein à l'époque, et notamment son fameux programme d'armes de destruction massive. Par la suite, on a appris que cette motivation-là, non seulement elle était erronée, mais de la part de l'administration W. Bush, elle était carrément mensongère. L'autre motivation, elle avait trait à la peur qui régnait aux États-Unis. On est dans le contexte de l'après 11 septembre 2001, il ne faut pas l'oublier, et les Américains veulent se venger de l'affront qu'ils ont subi 2 ans plus tôt. Alors, ils ont commencé cette vengeance en faisant la guerre aux talibans en Afghanistan, les talibans qui avaient abrité Oussama Ben Laden et Al-Qaïda, mais ils avaient fait de l'Irak, et notamment c'était l'objectif du secrétaire à la défense de l'époque, Donald Rumsfeld, leur cible suivante pour déployer finalement cette vengeance et cette volonté de rappeler qu'on n'attaque pas les États-Unis impunément.
En gros, on voulait punir les pays qui avaient abrité là, les camps de formation ou d'entraînement de ces terroristes.
Exactement, ou qu'on supposait proche de ces terroristes-là. Et là aussi, c'était une motivation, l'alliance entre Saddam Hussein et les groupes terroristes qui était erronée, pour ne pas dire mensongère. Mais Saddam Hussein faisait office de méchant idéal à l'époque, puisque en 2003, il était sous régime, par exemple, de sanctions onusiennes, d'embargo. Des résolutions étaient adoptées pour dénoncer son régime depuis une dizaine d'années, donc depuis la fin de la guerre du Golfe de 1990-1991. Il y avait peut-être une troisième motivation plus idéologique, c'est celle qu'on a attribuée à ce fameux mouvement des néoconservateurs qui voulait radicalement transformer le paysage politique du Moyen-Orient en imposant la démocratie par les armes, et on sait donc que là aussi, cette ambition-là ne s'est pas totalement concrétisée en Irak.
Ouais. Il y a eu un aveu, là, quoi, 5-6 ans après, de George W. Bush, là, qui a jamais dit qu'il avait menti au peuple, mais qui a avoué que les armes de destruction massive, là, mon souvenir, c'est que les mots qu'il avait employés, c'est qu'il avait été mal renseigné. Il y avait une erreur au niveau des services de renseignement, là, qu'on l'avait mal guidé.
Oui, alors c'était peut-être une façon un peu facile de se défausser de sa part et de mettre tout le blâme sur la communauté du renseignement américain et en particulier la CIA. C'était un peu facile parce que au sein même de cette communauté américaine du renseignement, il y avait des doutes, il n'y avait pas de consensus absolu sur la présence d'armes de destruction massive en Irak. Et la situation, par exemple, était bien différente en 2002-2003 à l'égard de la menace que représentait l'Irak que la situation qui a prévalu en 2022 à la veille de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, où là, il y avait, disons, une certitude plus grande de la communauté américaine du renseignement. Par ailleurs, certains membres de cette administration de George W. Bush, son entourage, en particulier le vice-président Dick Cheney, qui était d'ardents partisans de l'invasion de l'Irak, parce qu'ils étaient convaincus de la menace, mais ces gens-là ont politisé leur enseignement, ont sélectionné des données qui allaient dans leur sens et qui leur permettaient donc de plaider auprès du président George W. Bush pour le bien fondé de cette intervention sur la base de la présence d'armes de destruction massive.
Corrigez-moi, il me semble que c'est vers la fin de l'année, novembre-décembre, quand ils ont... Parce que, bon, la guerre a pas... L'invasion a pas été longue. La guerre à la résistance irakienne n'a pas été énorme. Mais il a quand même fallu quelques mois de plus pour retrouver Saddam Hussein qui s'était caché. Quand on l'avait retrouvé, écoutez, dans un espèce de puits, un trou de sable, là, tout seul, je veux dire, pas d'armée, pas de garde, ça ridiculisait quand même déjà une bonne partie des thèses de George W. Bush. Disons que quand ils ont attrapé Saddam Hussein, il n'y avait pas l'air du dangereux dictateur prêt à s'attaquer à l'humanité, là.
Oui, la menace, elle apparaissait bien plus contrôlée, bien plus minime qu'on l'avait évoqué précédemment. Il a été trouvé début décembre 2003 dans la région de sa ville natale, hein, de Tikrit, si ma mémoire est bonne. Mais son régime lui-même s'était écoulé très très rapidement. Hein. L'invasion américaine commence donc le 20 mars 2003. Début avril, le régime s'effondre et donc Saddam Hussein prend la fuite. Alors il va pas très loin, mais justement ça montre à quel point on avait cherché du côté américain, encore une fois, le coupable idéal pour passer sa colère après le 11 septembre 2001. Je disais tout à l'heure, il y avait des sanctions depuis la fin de la guerre du Golfe. Il ne faut pas oublier non plus que les Américains au Moyen-Orient et vis-à-vis de l'Irak avaient déjà un dispositif militaire depuis la fin de la guerre du Golfe qui leur permettait par exemple de bombarder très régulièrement les installations militaires, notamment de défense antiaérienne de l'armée irakienne. Et donc en mars 2003, cette armée irakienne, elle est très très faible. Le régime lui-même de Saddam Hussein est en fait un château de cartes qui va s'effondrer d'un seul coup, et ce qui va poser d'ailleurs problème aux Américains, en plus des erreurs que eux vont commettre pendant la phase d'occupation qui suit la chute du régime, parce que les Américains ne vont pas pouvoir s'appuyer sur un appareil étatique qui va leur permettre ne serait-ce que de gérer, de contrôler le pays. Ils vont se retrouver dans une phase d'occupation qui va être particulièrement difficile pour eux et évidemment pour les Irakiens et Irakiennes.
Professeur Tourelle, il y a deux ans, un an et demi, lorsqu'on avait souligné les 20 ans du 11 septembre, j'avais parlé ici à l'émission à Cube Radio à Jean Chrétien. Et de fil en aiguille dans ces discussions-là, on était arrivé sur cette question de l'Irak, parce que dans les répliques au 11 septembre des Américains, il y avait donc cette invasion de l'Irak. On va réécouter ce que M. Chrétien disait quand même sur cette décision majeure. Là. Contrairement à la plupart du temps dans son histoire, le Canada avait décidé de ne pas suivre George W. Bush.
En tout cas, j'ai eu des doutes. Et puis, plus j'étudiais ça, plus j'avais des doutes. Et je trouvais qu'il n'y avait pas de preuves. Et c'est basé là-dessus. J'ai dit, quand Bush m'a demandé, dans une discussion qu'on avait eue en septembre, à Détroit, il m'a demandé d'y aller. Mais j'ai dit, j'ai des doutes sur les armements de destruction massive. Et de toute façon, il vous faut avoir l'accord des Nations Unies, si vous voulez que je vous appuie. Et je ne pense pas que vous aurez l'accord des Nations Unies si vous n'avez pas de meilleure preuve d'armement de destruction massive.
Ouais, professeur Tourelle, c'était, est-ce qu'on dit, la décision la plus importante de la carrière politique de Jean Chrétien?
Ah, probablement qu'en termes de politique étrangère, ça a été la décision la plus judicieuse qu'il ait pu prendre, d'autant plus qu'on peut tout à fait imaginer que la pression de la part du partenaire américain n'était pas totalement légère. Hein. Et... Bon, il a l'air de rappeler qu'il avait pu facilement s'opposer à la demande de George W. Bush, mais c'est pas évident avec un voisin aussi important et influent que les États-Unis.
Ouais. Et donc, M. Chrétien nous résume ça à des termes... bien simple là, de tous les jours, mais c'est quand même ça. Il avait un doute sur l'existence de ces preuves. Appelons ça un bon instinct.
Oui, une bonne utilisation des renseignements qui étaient ceux finalement de la plupart des partenaires des États-Unis et des décideurs américains eux-mêmes. Hein, je rappelle encore une fois, la CIA n'était pas sûre à 100% de l'existence de ce programme d'armement. Ce qui est assez intéressant aussi dans ce que dit Monsieur Chrétien, c'est l'absence de consensus, et notamment au sein des Nations Unies. Et il ne faut pas oublier qu'à l'époque, à l'automne 2002 et au début de l'hiver 2003, Washington a essayé de convaincre de façon très maladroite. On se souvient de la performance, entre guillemets, du secrétaire d'État Colin Powell au Conseil de sécurité. Donc, Washington a essayé de convaincre la communauté internationale et ses partenaires de l'appuyer. Ça a donné lieu à des passes d'armes mémorables, avec des alliés traditionnels des États-Unis. Je fais bien entendu ici référence, où j'ai à l'esprit le fameux discours de Dominique de Villepin, qui était à l'époque ministre des Affaires étrangères, qui s'est opposé frontalement aux Américains au Conseil de sécurité de l'ONU sur cette question irakienne.
Julien Tourail, merci beaucoup. Au revoir.
Merci à vous. Bonne fin de journée.